Alors, j'ai l'immense honneur donc de présenter Pierre Nassif et aussi les circonstances qui ont fait que nous sommes là ce soir. Donc, comment ça s'est passé, ces circonstances? Moi, j'ai rencontré en fait Pierre Nassif en octobre 2012 lors d'une formation aux pratiques narratives. Il en touchera un petit mot puisque c'est l'un de ses sous-titres. Sa pratique d'accompagnement des chercheurs d'emploi est vraiment basée sur l'approche narrative. À l'époque, j'avais été interpellée par la manière, enfin son choix d'abord, de sujet, de client pour le coaching, parce que accompagner les chercheurs d'emploi et ne faire que ça et réussir là-dedans, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ne fassent que ça. L'une de ses manières de faire, lorsqu'il a eu à choisir une spécialité dans le coaching, il s'est posé la question en fait, de savoir les problèmes qu'il avait rencontrés et qu'il avait réussi à résoudre. Et en fait, il s'est rendu compte que plusieurs fois, il a eu à vivre cette situation de chercher un emploi. Et à chaque fois, il a trouvé des solutions. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas mettre au service d'autres personnes cette compétence de retrouver un emploi. Et comme ça a bien fonctionné, ce sont ses clients qui lui ont dit « Vous avez une pratique qui est différente des autres. Ça serait bien de pouvoir l'écrire dans un livre. » Ou de les partager ses idées. Je n'avais plus entendu parler de Pierre après cette formation, à part nous étions restés en lien mail, jusqu'à ce que je découvre qu'il allait faire une conférence dans le cadre donc de la fabrique narrative pour présenter son livre. Et comme c'est à Paris, là j'étais vraiment hyper frustrée. Donc je lui ai dit, et il a immédiatement dit si tu veux, ça peut être à Bordeaux. Donc voilà, j'ai présenté cette idée à Monique Lévy dans le cadre de notre association de coaching. Et nous avons pu organiser cette conférence grâce à toutes les associations et grâce à Mola aussi. Pour présenter plus particulièrement Pierre, il faut peut-être ajouter qu'il est polytechnicien. Et quand on pense à ça et aux chercheurs d'emploi, on pourrait se dire « ouais, facile quoi ». Ça doit ouvrir quand même pas mal de portes et un bon réseau. Et malgré ça, on reste un être humain, quels que soient nos diplômes, quels que soient nos réseaux. Et il est toujours difficile de surmonter ces clichés, ces croyances. Et le fait que lorsque nous sommes sans activité, peut-être que ça touche quelque part un peu d'estime de soi. Et ça, c'est toujours au niveau de la perte d'identité professionnelle. C'est jamais négligeable. Donc, Pierre, dans sa vie professionnelle, a eu vraiment de multiples expériences, à la fois en tant que manager, il a eu aussi des expériences en tant que recruteur, et comme je vous l'ai dit, en tant que chercheur d'emploi. Et c'est grâce à l'ensemble de ces richesses très diverses qu'il nous propose aujourd'hui à la fois son livre et ses idées qu'il a beaucoup de plaisir à partager là aujourd'hui avec ce public divers et riche, divers des points de vue. Et qui, c'est pour la première fois, puisque précédemment c'était uniquement devant des coachs. Et donc il a cette envie, grâce à ces échanges qui vont être très divers, de poursuivre à la fois le partage, mais l'avancée de ces réflexions. Voilà, je te remercie, Pierre, d'être parmi nous. Et donc, je te laisse la parole.
Merci, merci à toi, Michel. Et merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Bonsoir. Je vous parle donc du livre « Rechercher un emploi autrement, une application de l'approche narrative ». L'approche narrative, elle a été, au départ, c'est une forme de thérapie familiale conçue par un Australien, Michael White, et un Néo-Zélandais, David Epson, et qui s'est étendue à d'autres formes d'accompagnement, qui s'est étendue, bien sûr, à toutes les formes de la thérapie, au travail avec les communautés, et ici, à Bordeaux, a été conçue l'extension de l'approche narrative au domaine du coaching. Alors, moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai été formé à l'approche narrative par Pierre Blanc-Sanoun, donc à Bordeaux. Et je commençais à ce moment-là à faire de l'accompagnement des chercheurs d'emploi ma spécialité. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé appliquer l'approche narrative à ce domaine de la recherche d'emploi. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce si adapté que cela ? Michel parlait des problèmes du chercheur d'emploi, il vit sa situation comme un problème. Alors, l'approche narrative, elle dit le problème est le problème, la personne est la personne n'est pas le problème. Donc, séparer la personne et le problème. Ainsi, par exemple, si quelqu'un vous dit « j'ai complètement perdu mes repères », alors le praticien narratif va avoir tendance à répondre « mais vous êtes confronté à la perte de vos repères ». Alors, je vous invite à voir la différence entre les deux formulations. Dans la première formulation, c'est l'identité de la personne qui est envahie par cette idée-là, hein, la perte de repères habite cette personne, elle est une personne qui a perdu ses repères. Et la réponse, c'est, il y a la perte de repères, et il y a une confrontation. Et donc, puisqu'il y a une confrontation, on peut négocier. On peut négocier, on peut savoir à quel moment cette perte de repères intervient, on peut savoir qu'à d'autres moments, vous êtes capable d'y résister, enfin, on sépare la personne et le problème. Et le chercheur d'emploi, comme l'a rappelé Michel, peut être habité par toutes sortes de visions problématiques de sa situation auxquelles il s'identifie. Le sentiment d'échec, le sentiment qu'il n'en vaut pas la peine, le sentiment qu'il a fait une faute, qu'il ne s'en sortira pas facilement, que la vie est difficile et que sais-je encore. Et en face de tout cela, on lui rappelle, ah oui, mais vous êtes vous et le problème est le problème et il y a une confrontation, il y a une négociation, il y a des moments où vous résistez, il y a des moments où le problème n'est pas là. Partons de ces moments où le problème n'est pas là pour aller dans une autre direction. Et en effet, l'approche narrative ne propose pas de résoudre les problèmes. Ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Ce qu'elle propose, c'est de remplacer cet espace problématique, de le remplacer, une fois que le problème a été mis à distance, de le remplacer par autre chose, par une nouvelle histoire qui, au départ, apparaît fugitivement et qui, progressivement, prend la place de l'histoire de problème et devient l'histoire que la personne envisage d'écrire, de vivre. Hein, et qui, c'est l'histoire préférée. Et en effet, pour le chercheur d'emploi, l'histoire préférée, c'est l'histoire de sa vie professionnelle future dans laquelle il ira dans une direction qui va lui convenir, éventuellement dans la direction de ses rêves, de ses espoirs, de ses passions, dans ce vers quoi il souhaite s'engager dans la vie et ce qui correspond pour lui à une bonne vie. Hein. Alors c'est ça la trame du livre. Et en tout cas son idée dominante. Pour exposer la manière dont ça fonctionne plus en détail, partir des phases de la recherche d'emploi que j'ai identifiées. Alors, les phases de la recherche d'emploi, que je propose, la première, c'est la récupération, donc récupérer. Qu'est-ce que c'est récupérer ? C'est reprendre possession de l'ensemble de ses moyens, de l'ensemble de ses aptitudes considérer que qu'il est possible de partir, en effet, dans la direction de ses passions, de ses espoirs et de ses rêves. Et suite à cela, enfin, pas forcément suite dans le temps, parce que toutes les phases, à un moment donné, se rencontrent et dialoguent l'une avec l'autre, on pourrait presque dire, interagissent en tout cas. Logiquement, la phase suivante, c'est une phase dans laquelle on parle de préparation. Alors, qu'est-ce que se préparer pour un chercheur d'emploi ? Se préparer, c'est justement déterminer, faire le clair sur ce que sont ses espoirs et ses passions et ce qu'il considère comme étant une bonne vie, de quoi c'est fait concrètement, comment cela s'exprime. C'est aussi imaginer les contours de l'entreprise qui peut y répondre. Comment est-elle, cette entreprise ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle est sa raison d'être ? Quelles sont ses valeurs ? Qu'est-ce qu'elle exprime ? Et puis, c'est savoir soi-même, finalement, que peut-on mettre en avant en termes de qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je vois ma place hein, dans la vie. Et donc, suite à cela, le chercheur d'emploi, on l'invite à explorer l'entreprise et le tissu économique. Explorer l'entreprise et le tissu économique, c'est fort de toute sa préparation, se diriger vers des entretiens, de plus en plus de rencontres avec des personnes qui l'aideront en le conseillant, l'orientant, en l'informant, et plus, si possible, hein, au fur et à mesure des rencontres, le travail d'investigation de la personne se précise, et ce travail s'étant précisé, eh bien, le ciblage de ces rencontres va se préciser également, et petit à petit, elle arrivera en étant mieux informée, et donc elle obtiendra davantage d'informations, elle sera un meilleur interlocuteur, et un jour ou l'autre, montrant son intérêt pour une entreprise, elle sera reconnue par cette entreprise elle-même comme une personne intéressante. Hein, on attire ce par quoi on est attiré, bien souvent. Viendra la rencontre décisive, celle qui sera le couronnement de ses efforts, hein, qui aboutira, en effet, à un nouvel emploi. Donc, voilà les grandes lignes. Je m'approche maintenant un peu plus de la phase de préparation, de récupération, hein, avant la préparation. J'ai parlé de problèmes, de mise à distance des problèmes. Une chose que l'on recommande, c'est... avant de parler de mise à distance des problèmes, c'est de faire le tri dans les influences. Hein, les chercheurs d'emploi sont soumises à des influences de la part de toute la société. C'est le problème numéro un. Il y a une atmosphère de tragédie, de drame dans lesquels ils sont plongés par la société et par leurs proches, par leur entourage. Et ils subissent ces influences. C'est pas le moment. Il faut jouer la prudence. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et que sais-je encore. Les statistiques sont mauvaises, mais bon, premièrement, la personne n'est pas un phénomène statistique, hein, elle n'est pas soumise à une statistique, elle est une personne, et personne n'est capable de dire à sa place où elle se situe par rapport à cette statistique. Et puis, deuxièmement, on sait très bien que l'information n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Ainsi, on ignore souvent qu'un nombre considérable d'emplois que les employeurs cherchent à créer, eh bien, ils n'arrivent pas à les créer, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'adéquation, ils ne trouvent pas les personnes qui auraient la volonté d'occuper ces emplois. On ne parle pas de centaines ou de milliers de postes, hein, on parle de centaines de milliers. Hein, c'est ça la réalité. Et donc, enfin, en tous les cas, le conseil ou la recommandation, c'est vraiment être au voisinage des influences positives, des influences constructives, être au voisinage des gens qui vont encourager la personne, se laisser influencer de cette manière-là, et non par ceux qui vont l'inciter à se renier elle-même et à accepter n'importe quoi. Voilà la première chose. Alors ensuite, le travail sur les problèmes eux-mêmes. Je vais prendre des exemples. Hein. Il y a chaque problème, chaque histoire que vous entendrez sera, ben vous l'entendrez pour la première fois. Hein. L'histoire de chacun est unique. J'ai isolé des histoires caractéristiques. La première caractéristique, c'est le problème vient de la séparation, ça peut arriver. Hein. Une séparation s'est mal passée et c'est là-dessus que naît l'histoire problématique. Ainsi, moi, j'ai vu quelqu'un récemment me dire voilà, mon employeur, ben, il a commencé par me chercher des fautes, et puis ça n'a pas marché. Il m'a envoyé quelqu'un pour me signifier mon licenciement, et cette personne-là, elle m'a parlé en regardant ses pieds. Alors, voilà, ça c'est, pour lui, c'était un problème. Le fait que ça soit passé comme ça, c'était... Alors, pourquoi c'était un problème? Eh bien, ça, c'était un problème parce que, justement, lui, ses valeurs sont des valeurs de franchise et de courage. Hein, et précisément, cette circonstance-là, dans laquelle on s'est comporté comme ça en face de lui, est une circonstance dans laquelle, justement... La franchise, le courage n'était pas au rendez-vous, était négligé, était malmené, et c'est pour ça qu'il a été sensible à cette histoire-là. Et donc le travail, c'était, eh bien, d'une part qu'il le constate, hein, qu'il constate que c'était bien cela qui était arrivé, et puis qu'il reconnaisse que c'était bien ses valeurs et qu'il allait surtout les garder et les proclamer, continuer à vivre avec, dans le respect de ses valeurs, en honorant ses propres valeurs. Une autre histoire, c'est l'emploi. L'emploi lui-même était problématique ou a été vécu de manière problématique. Alors là, bon, l'histoire que je vais raconter, enfin, que je vais esquisser, elle est peut-être extrême, mais réelle. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire « Tous mes travaux étaient signés par mon chef. » J'écrivais des rapports, j'ai faisais des planches PowerPoint, c'était lui l'auteur, et il n'a jamais exprimé de reconnaissance pour mon travail. Enfin, bon, ça m'a aidé en rien, c'était juste... comme ça. Bon, alors, je ne vous raconte pas tous les détails qui ont amené au départ de cette personne de l'entreprise, mais ce que je peux dire, c'est que, là encore, il y avait quelqu'un qui était profondément attaché à l'honnêteté, on ne vole pas, et qui se sentait mal d'avoir été en présence d'un supérieur hiérarchique qui se comportait de manière tellement, tellement opposée à ce à quoi elle croyait, à ce qu'elle valorisait. Puis enfin, le dernier problème, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de cette atmosphère tragique dans laquelle le chercheur d'emploi est plongé. Hein, ça c'est un problème, et c'est un problème qui n'est absolument pas... inévitable. Hein. Il peut très bien, la personne peut très bien, en mettant à distance la pénibilité supposée de la situation, l'inquiétude, enfin tout. Chacun vit ça à sa manière. Hein. Toutes les histoires ne sont pas les mêmes, encore une fois, même chacune est unique. Mais enfin, toute personne peut arriver à vivre cette période comme un moment apaisé, comme un moment serein, comme un moment dans lequel, eh bien, elle va avoir l'opportunité de mener sa vie dans une direction qui lui conviendra davantage. Alors, c'est cet état d'esprit qui est l'état d'esprit propice. Je parle maintenant de la préparation. État d'esprit propice à quoi ? Eh bien, à la compréhension de quelle est cette direction ? L'identification de cette direction, la compréhension de ce qu'elle est, et puis la détermination d'un chemin, d'une trajectoire que la personne va suivre pour atteindre cette destination qu'elle souhaite, sa destination préférée, et pour vivre son histoire préférée. Alors, on propose différentes approches. La première, selon moi, c'est de partir de ses réussites. On invite la personne à partir de ses réussites. Qu'a-t-elle, de quoi est-elle fière ? De quelle réalisation est-elle fière ? De quel moment se souvient-elle comme un moment de son histoire professionnelle satisfaisant ? Un moment de son histoire professionnelle au cours de laquelle elle était dans un environnement qui lui a bien convenu. Un moment où elle a appris des choses qui l'ont passionnée, qui la portent jusqu'à maintenant. Un moment où elle a rencontré des personnes pour lesquelles elle a eu du respect. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait toutes ces choses-là, mais au moins une d'entre elles. Parce que malheureusement, c'est très rare d'avoir toutes ces circonstances magnifiques réunies en un seul endroit. Mais une réussite peut être faite de finalement peu de choses. Hein. J'ai fait ça, oui, c'était bien fait, j'en suis fier. J'ai rencontré telle personne, c'était une personne formidable. Le climat dans cette entreprise, oui, moi, ça m'a bien convenu. Voilà, donc ça, c'est plein d'enseignements pour la personne de partir de ça et de se souvenir de ça. Et en plus, c'est plein enfin, oui, ça la met dans un bon état d'y penser. Alors ensuite, l'autre piste à suivre, c'est vraiment de regarder l'entreprise, hein, de regarder l'entreprise en se disant, l'entreprise qui me convient, l'entreprise que j'aimerais rejoindre, quelles sont ses caractéristiques ? Alors, bon, vous verrez, dans le livre, on propose quelque chose de bien précis, de bien structuré sur bon, quelles sont les questions, dans quel ordre. Je vais résumer ça. Comment fonctionne l'entreprise, quel est son style de travail, d'organisation, dans quel environnement elle est, quelles sont ses ressources, ses atouts, quelle est sa raison d'être. À quoi croit-elle cette entreprise ? Voilà, ce sont ces questions-là que pose la personne et petit à petit, elle fait référence à un modèle d'entreprise, enfin, donc la description de ce qu'est l'entreprise qu'elle a envie de rejoindre. Enfin, elle pense à ses compétences. Alors, je sais que la compétence, ça prend la plus grande place dans l'approche traditionnelle, l'approche la plus courante sur l'entreprise. C'est ce qui prend la plus grande place, peut-être trop de place, mais ce n'est pas la même conception de la compétence que je parle ici. Il ne s'agit pas des compétences que l'on a ou prétend avoir parce qu'elles correspondent au dernier travail qu'on a fait. Hein. Ça, je crois que c'est une conception assez pauvre de la compétence. Non, il s'agit de choses plus riches, acquise depuis le début et que la personne a développée tout au long de son histoire et qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Alors pour arriver à ça, l'approche narrative propose un exercice qui s'appelle l'arbre de vie. Alors certains d'entre vous ont entendu parler de ça ou l'ont peut-être pratiqué dans leur travail. Mais je ne vais pas le décrire l'exercice dans tous ces détails, hein, mais simplement je vais dire que c'est un exercice dans lequel les compétences de la personne sont plongées dans toutes les dimensions de l'être. Hein. On ne cherche pas à isoler les compétences du reste, on cherche à savoir comment ces compétences s'inscrivent dans ce qu'est la personne, ce qu'est sa culture, ce que sont ses racines, ce qu'est son vécu, ce que sont ses espoirs, ce que sont les rencontres décisives qu'elle a faites dans sa vie, etc. Enfin, donc la notion de compétence n'est pas plaquée sur une histoire, elle fait complètement partie de cette histoire. Et elle est ce qui fait que oui, un tel, c'est un bon négociateur, ou c'est un bon chef de projet, ou il est visionnaire. Ah oui, c'est un visionnaire, on va dire. Bon, c'est très difficile de dire ce qu'il y a derrière, mais quand on a dit ça de quelqu'un, en général, oui, on est content, on a rencontré quelqu'un qui a des visions. Bon. Je ne vais pas aller plus loin. C'est une, en quelques mots, ce qu'est la préparation. Je vais vous dire un peu plus sur quoi elle débouche en termes d'exploration de l'entreprise et du tissu économique. Donc la personne est bien préparée une fois qu'elle a fait tout ça à avoir des rencontres et à multiplier les rencontres. Alors, ce ne sont pas les premières rencontres, hein, parce que tout le travail qui a précédé n'est pas forcément un travail intellectuel qu'elle va mener en chambre. Tout le travail qui a précédé peut être un travail qu'elle mène, oui, en allant voir les uns et les autres, en lui disant mais comment tu me vois, ou en disant à l'autre comment fonctionne votre entreprise, pourquoi êtes-vous fier de travailler pour cette entreprise, par exemple. C'est une question, vous pouvez très bien demander à quelqu'un, j'aimerais vous rencontrer pour que vous me parliez de votre entreprise et de ce que vous y faites, hein, j'aimerais vous rencontrer pour que vous me donniez conseils. Donc tout le travail qui précède l'exploration du marché à proprement parler peut être un travail fait avec les autres. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande, parce que je crois que vraiment le principal adversaire du chercheur d'emploi, c'est la solitude. Hein, alors, donc, il explore l'entreprise par l'intermédiaire de rencontres. Cela ne signifie pas qu'il va s'exonérer de tout ce qui est proposé par le marché. Il peut le faire en espérant que ça rejoigne sa démarche à un moment donné. Mais le principal, ce sur quoi il compte principalement, c'est les rencontres qu'il va provoquer, fort des marques d'intérêt qu'il aura prodiguées à l'entreprise, parce qu'il aura compris ce qu'elle était avant même d'y aller, et des rencontres qu'il fera une fois qu'il sera revenu de son premier cycle de rencontres et qu'il en aura appris davantage, etc. Donc ce processus est vertueux parce que la personne en sait de plus en plus sur les entreprises, sur ses attentes, sur les points de chute, sur les projets, sur les personnes, et à un moment donné les choses se cristallisent, il y a une rencontre forte et il y a un moment où deux personnes se reconnaissent et se disent leur envie de travailler ensemble finalement. Alors terminer ce passage sur l'exploration de l'entreprise, du tissu économique, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de Julien. Alors lui, il était dans un groupe de chercheurs d'emploi que j'animais comme coach. Et alors, il venait de faire un poste de directeur opérationnel hein, d'une unité de production, donc il dirigeait une sorte de PME opérationnelle, et il voulait rejoindre une entreprise du CAC 40. Alors il disait, je sais, ça ne va pas être facile, je vais être orienté vers ce que je sais faire, vers un poste identique à celui dont je viens, mais je voudrais essayer quand même. Et puis alors, le jour où il s'est présenté devant le groupe, il nous dit, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un là à un salon, il veut me rencontrer. Et alors, mon conseiller, il me dit surtout pas, c'est pas le moment. Il faut commencer à il faut être prêt. Il faut savoir quoi dire, avoir fait sa démarche de préparation. Et avant, c'est contre-productif, il faut pas y aller. Alors, voilà, il a demandé au groupe ce que le groupe en pensait de ce problème-là. Fallait-il y aller ou non? Alors les gens ont débattu, je ne sais plus très bien si une position a vraiment émergé. On m'a demandé mon avis, et puis moi mon avis c'était que cette personne voulait le rencontrer, c'était une personne qu'il allait rencontrer. C'était bien plus important d'avoir cette rencontre que le but finalement, un emploi, une recommandation, que sais-je encore, ils n'en savaient rien. Ils n'en savaient rien. L'un et l'autre n'en savaient rien. Ils avaient décidé de poursuivre la conversation. Et c'était ça qui était important. Et donc il m'a entendu, ce gars-là, et la suite va le montrer. Donc il s'est bien, il a fait connaître ses désirs un peu partout. Hein. Il a parlé de lui, de ce qu'il voulait faire, de là où il voulait aller, et il a fini par être contacté par une entreprise justement du CAC 40 qui voulait qu'il anime un service chargé de conseiller les entreprises du type de celle où il avait été directeur opérationnel. Alors lui, ça lui allait comme un gant, ça lui convenait très bien. C'était exactement ce qu'il voulait faire. Et alors il a été convoqué à des entretiens. Alors un entretien après l'autre. Et ça continuait. À chaque fois qu'il terminait un entretien, on lui disait « Ah, il faudrait encore que vous voyiez un tel ». Et à la fin, il m'a dit « J'ai eu 13 entretiens ». J'ai eu 13 entretiens et il y allait à chaque fois. Je pense que c'est le discours sur la rencontre l'a aidé parce que il ne s'est pas lassé. Hein. Il n'a pas dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez ?» On a compris, est-ce que je vais avoir ce poste? Il a rien dit de tout ça, il allait aux entretiens, et l'un après l'autre, et puis après il a compris que dans cette entreprise, finalement la question que se posait l'entreprise, c'était mais est-ce qu'il veut vraiment de ce poste? Est-ce que c'est pas un pis-aller? C'est un poste qui est bien moins valorisant que ce qu'il faisait auparavant, et pourtant... il vient pour diriger une petite unité qui va faire du conseil. Est-ce que ça va vraiment lui convenir? Et oui, ça lui convenait. Et ça lui convenait tellement que ben, il l'a dit à chacun. Et à chacun, il redisait la même chose. C'était facile parce que c'était la vérité. Donc, il disait la même chose aux uns et aux autres. Et il a eu le poste. Voilà comment cette histoire s'est heureusement terminée. Moi, je m'en suis souvenu. Hein. Pour conclure cet exposé, la question que je me pose et que je vais vous poser, c'est et l'entreprise, est-ce qu'elle en veut? Est-ce que c'est intéressant pour elle? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise que des personnes se présentent à elle animées d'un tel état d'esprit au lieu de se présenter à elles pour raconter leur histoire, voilà ce que je sais faire et j'ai le sentiment d'être conforme à ce que vous attendez. Bon, donc si au lieu de faire ça, les gens se présentent à elles en leur disant votre entreprise m'intéresse, voilà ce que je sais de vous, et puis moi voilà ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise? Alors, moi, je crois que oui. Hein. Je crois que oui pour deux raisons. La première des deux raisons, c'est que les gens qui sont avec cet état d'esprit, c'est déjà qu'ils ont un esprit positif envers l'entreprise. C'est déjà qu'ils ont dans leur tête réhabilité l'entreprise. C'est déjà qu'ils estiment qu'ils ont fait un travail, un chemin qui les amène à penser que l'entreprise est un endroit, un lieu dans lequel ils peuvent trouver leur épanouissement personnel, pour lequel ils peuvent s'enthousiasmer. C'est un endroit qui peut correspondre à leurs espoirs, aux espoirs qu'ils mettent dans la vie. Hein, Donc, ça, je pense que c'est déjà assez différent de l'état d'esprit qui est malheureusement très généralement colporté dans ce pays de dénigrement de l'entreprise, qui est un lieu conflictuel dans lequel on prend des coups, dans lequel on n'est pas respecté, et je ne sais quoi encore. Donc la personne qui croit, on ne croit pas à ça, mais en tous les cas qui croit que elle peut trouver son chemin là-dedans et bien vivre dans l'entreprise. Si elle a fait cette démarche, je crois que c'est déjà intéressant pour l'entreprise. Alors en plus, elle se présente en disant j'ai travaillé sur ce que vous êtes, voilà ce que je sais de vous, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez en dire davantage? Alors là, oui, ça peut être perçu comme constructif pour une entreprise, il me semble. Et l'autre question, c'est l'autre intérêt de l'entreprise, je crois, en acceptant que cette fonction de rencontrer des gens qui ont envie de rejoindre l'entreprise soit comme ça excentrée, qu'il y ait différentes personnes dans l'entreprise qui puissent le faire, ce travail. Déjà, ça suppose que l'entreprise soit devenue très claire sur ce qu'elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle veut communiquer à l'extérieur. Donc, c'est intéressant pour elle de faire ce travail et de le diffuser en interne, d'être sûre que des personnes qui rencontreront les gens qui viendront vers l'entreprise sont vraiment en train de représenter l'entreprise en sachant ce qu'ils disent et en sachant que c'est vraiment le message de l'entreprise et pas leur propre perception. Donc ça c'est un travail qui peut vraiment apporter quelque chose à une entreprise et puis ça peut lui permettre de multiplier les véritables rencontres à un niveau profond avec des personnes qui s'intéressent à elle.
Face à une personne qui peut-être a des difficultés à bien facilement répondre aux questions, dire les choses, comment on peut l'accompagner et l'aider?
La notion de type de personnalité. Est-ce qu'il faut avoir une approche différente selon les... Est-ce que conseiller aux gens d'avoir une approche différente selon leur personnalité? Alors, moi, je n'ai pas tendance à mettre cette notion de personnalité au premier plan. Hein. Ça, c'est... Ai-je raison, ai-je tort? Ce que je sais, c'est que lorsque vous avez un rapport direct avec les personnes, elles ne vous parlent pas de ça. Hein. C'est rare que quelqu'un vous dise mais moi je suis timide, je ne saurais pas faire ça. Hein, ça peut arriver, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas que demain je n'aurai pas quelqu'un qui prononcera un discours de ce genre. Il est certain que une personne qui est dans la nécessité de chercher un emploi, hein, je ne dis pas, il y a des gens qui ont peut-être le choix de renoncer, de dire finalement l'emploi c'est pas pour moi, je vais faire autre chose dans la vie. Mais nécessité fait loi. Hein. On sait très bien que nécessité fait loi. On sait très bien que quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle elle a besoin d'un emploi, elle veut en trouver, elle a besoin d'un emploi et elle veut en trouver, elle va être amenée à se dépasser quelque part, hein, à se dépasser, à sortir de ses problèmes. Et peut-être que ce dont vous parlez comme étant une personnalité introvertie, Je ne sais pas s'il y en a, honnêtement. Mais ce dont vous parlez comme étant une personnalité introvertie, c'est peut-être quelqu'un qui va vous raconter une histoire, des raisons pour lesquelles cette histoire va illustrer sa difficulté à aller au contact avec les autres, et vous allez peut-être trouver une contre-histoire ou... Oui, vous me rappelez une histoire qui m'est arrivée avec un client. Et lui, son sujet, c'était... il avait du mal à prendre son téléphone pour appeler un inconnu et prendre rendez-vous, tout simplement. Il avait du mal à faire ça. Dans le cadre de ce qu'il appelait une démarche commerciale. Moi, je ne saurais pas faire une démarche commerciale, il disait. Or, je veux faire un job qui suppose que je sois aussi un bon commercial. Je ne saurais pas faire une démarche commerciale. Donc, je ne saurais pas appeler un inconnu pour décrocher un rendez-vous. Or, j'ai demandé si, en dehors du contexte commercial, il n'y avait pas d'autres histoires, d'autres moments où il y avait réussi. Et oui... Parce que il avait été dans le passé en recherche d'emploi, et dans le cadre de sa recherche d'emploi, il avait rencontré des gens qu'il avait contactés et il les avait convaincus qu'il était la personne recherchée, qu'il était lui-même la personne qu'elle recherchait. Et donc, ce n'était pas une action commerciale à proprement parler de quelqu'un qui vend un produit, mais c'était une action qui correspondait tout à fait à ce qu'il disait qu'il ne pouvait pas faire. Et il disait oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Enfin, en tout cas, ça a changé sa vision des choses.
De plus en plus, les entreprises, lorsqu'elles font du recrutement, se standardisent et souhaitent avoir vraiment le spécialiste, le clone performant. Ta démarche, Pierre, est totalement différente et à l'opposé de ça. Quel est le retour d'expérience qu'il peut y avoir vis-à-vis des personnes qui ont suivi ta démarche? Est-ce qu'ils ont rencontré donc ce type d'entreprises qui ont besoin de clones, de personnes standardisées, et comment cette rencontre s'est faite? Ou alors ils ont rencontré d'autres entreprises qui ont d'autres manières de faire?
Oui, alors mon retour d'expérience, c'est un retour d'expérience qui n'est pas très représentatif. Hein. Donc, vous avez compris, la démarche est relativement récente. Moi, je suis dans ce métier, je suis jeune dans ce métier, hein, malgré mon âge. Je travaille sur la recherche d'emploi depuis quelques années, 5-6 ans. Et les expériences que j'ai eues sont des expériences constructives, positives. C'est tout ce que je peux vous dire. Les personnes qui adoptent cette approche s'en trouvent bien en général. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui trouvent ce qu'elles cherchent. Alors, sont-elles convoquées à des entretiens que vous qualifiez comme des entretiens dans lesquels on recherche des personnes qui ont un certain format, donc on a défini un format, et puis ensuite on essaie de voir quelqu'un qui est le clone. Je ne le pense pas, hein, parce que moi je suis clair sur ce que j'apporte. Hein, je n'apporte pas une préparation à ce type d'entretien. Maintenant, si jamais la question que vous me demandez, c'est ce que j'en pense, moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous avez fait un job à un moment donné dans une entreprise et que vous êtes recruté par une autre entreprise pour faire exactement le même job, c'est sur le papier, ça n'a rien à voir. le même travail, c'est pas le même travail, puisque c'est pas la même entreprise. C'est tout. Ce n'est pas le même travail. Et éventuellement, vous pouvez mettre en application certains réflexes que vous avez acquis. Mais franchement, c'est pas le conseil que je vous donnerai. Surtout, voyez les choses comme étant un nouveau job dans une nouvelle entreprise. La compétence de quelqu'un, son expérience, son identité professionnelle sont énormément liés au contexte dans lequel ils travaillent. Nous, c'est ça qu'on apprend en approche narrative, c'est que l'identité de la personne, c'est avant tout l'identité de ses relations, la nature de ses relations avec son environnement. Donc, voilà ce que je peux en dire. Maintenant, il est vrai que ces approches... Alors, j'en parle dans le livre. Je ne sais pas trop si ce sont vraiment des approches qui correspondent à un consensus entre toutes les parties. J'ai un peu l'impression que petit à petit, chacun s'est mis à imaginer ce que voulait l'autre, chacun s'est mis à préfigurer les attentes des autres, et progressivement, c'est construit un dispositif dans lequel on a pu construire des produits, mais donc mettre en place des prestations. Bon, alors, pour mettre en place une prestation, il faut que vous ayez défini ce que vous voulez. J'ai fait un peu de conseil, donc je sais très bien que ça passe par ça. Si jamais je veux offrir une prestation à quelqu'un, il faut que ce soit défini pour qu'à la fin, je puisse dire c'est fait ou c'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'il y a les démarches dont vous parlez. C'est ce qui leur a donné naissance. Alors est-ce qu'elles correspondent réellement à ce que les gens veulent, à ce que les gens attendent? Quand j'étais manager et que je voyais quelqu'un venir avec un discours préfabriqué et j'arrivais pas à entrer en contact avec lui, j'avais pas envie de le recruter non plus. Bon, alors je suis peut-être spécial. Il y en a d'autres qui justement ça va leur convenir. Je ne sais pas vraiment répondre en termes de comparaison, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. Je vous dis ce à quoi je crois.
Donc, dans ce que tu décris, il y a dans cette recherche d'emploi la rencontre entre deux besoins, le besoin du recruteur et le besoin du chercheur d'emploi. Et j'ai comme l'impression qu'il y a... Souvent, on voit le chercheur d'emploi comme étant un demandeur et quémandeur de par rapport aux entretiens. Et là, ce que tu es en train de nous dire, Bernard, c'est que le recruteur, il semblerait, grâce, Pierre, à ta proposition de méthode, que peut-être le recruteur lui-même peut apprendre du candidat certaines choses. C'est une question. Par rapport à ton expérience, Pierre, qu'est-ce que tu peux en dire?
Oui, donc moi, j'ai entendu que c'était réciproque, que c'était réciproque, que chacun reconnaît, chacun au cours de l'entretien reconnaît l'apport de l'autre, et du fait de cette reconnaissance de l'apport de l'autre, la rencontre est forte. Et l'envie de travailler ensemble naît et se développe. Donc je vous ai dit oui, spontanément. Moi c'est un peu ce que ça correspond bien à ce que je raconte. C'est de ça qu'est faite la rencontre. J'ai reconnu cette entreprise. Voilà pour moi ce qu'elle est. Elle me plaît bien parce que justement, voilà ce qui m'intéresse. Et du fait que la personne a décrit l'entreprise de manière telle que cette entreprise peut se reconnaître, oui, il voit bien ce qu'on est. Oui, ce gars-là, il voit bien ce qu'on est. Et en plus, on lui plaît. Eh bien, donc là ça donne la réaction positive en retour. Il a bien vu ce qu'on est et puis on l'intéresse. Donc il est intéressant ce gars-là. il y a une certaine continuité hein, entre ces différentes pensées. Elles s'enchaînent les unes les autres dans une association assez naturelle. Et si dans cette entreprise, il y a une perspective de développement, si la personne peut prendre une place, eh bien, à ce moment-là, la démarche peut aller plus loin. Et alors, pourquoi ceci ? Ça vient dans la partie de votre exposé que j'aimerais compléter, et vous m'en donnez l'occasion, parce que vous vous êtes situé dans l'idée qu'il y a un poste, que ce poste a été défini, et qu'il y a une personne qui vient pour postuler à ce poste, hein, mais la situation n'est pas forcément comme ça. Vous savez très bien que dans les entreprises, avant ce moment où la création d'un poste se fait, le moment où on définit des choses et on dit voilà la personne qu'on recherche et voilà le travail qu'on lui donnera, il peut y avoir plein d'allers-retours, le moment de la formation de la décision est très riche, très progressif, et cette décision, lorsqu'elle se forme, elle est le résultat d'un consensus à un moment donné, mais elle n'est pas la seule possible. Et simplement, c'est la décision qui a été prise. Donc la fiche de poste est là. Et puis ensuite, le processus se déroule, il peut durer plusieurs mois, et en fin de compte, la personne arrive, et le travail qu'on va lui confier, ça va être pas tout à fait conforme à la fiche de poste. Ça va être autre chose. Parce que on aura rencontré la personne et cette personne-là, voilà le travail qu'on va lui confier. Et ça doit sans doute faire écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais c'est la réalité, c'est souvent comme ça que les choses se passent ainsi. L'individu qui vient manifester à l'entreprise l'intérêt qu'il a pour elle, il peut contribuer tout à fait à la définition de ça. Il peut être un acteur, sans le savoir, sans l'avoir prévu, un acteur dans le développement de cette entreprise en disant voilà ce que je vous amène, qu'est-ce que vous en pensez. Et alors, ensuite, il y a des conversations internes et il faut qu'on trouve quelque chose pour engager ce gars-là parce qu'il nous plaît bien. Enfin, ça peut se passer comme ça aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, en interne, moi, je l'ai vu plus d'une fois, ça.
Moi, je voulais juste déjà remercier Pierre. Un petit clin d'œil quand même pour revenir sur ce mot « recherche », parce que même par rapport à... Je n'avais pas vu la problématique de trouver. Moi, j'ai immédiatement vu la différence entre recherche et demandeur, puisque demandeur, c'est le terme que l'on a. Voilà. Merci Pierre, si tu pouvais juste conclure deux mots.
J'ai beaucoup parlé, hein, je conclue. Si j'ai à conclure quelque chose, c'est vous dire encore une fois ma joie d'avoir été ici parmi vous aujourd'hui et le profond intérêt que j'ai eu à votre attention et enfin à toutes ces préoccupations que vous avez bien voulu me confier. Je vous en remercie infiniment.
Merci Pierre.